Bonjour à tous. Lorsque je vous vois d'ici, vous paraissez tous bien sages. Voudrais vous dire qu'hier soir, nous avons passé une soirée merveilleuse dans la louange et l'adoration avec les musiciens au travers de chants. Vraiment, c'était. Personnellement, j'aurais voulu que ça dure toute la nuit. Mais. Il faut bien se rendre à l'évidence, à un moment donné, il faut rentrer pour se reposer. Alors j'espère que je suis un peu en forme ce matin, et vous aussi d'ailleurs. J'espère surtout que vous allez être attentifs à ce que Dieu veut nous transmettre, veut nous partager ce matin. Je vais commencer par une question. C'est pas une interrogation écrite, mais j'aurais pu le faire. Dimanche dernier, Eric a rappelé la vision de l'église baptiste de Clermont, qui était bien 10 sur 10. Et cette vision repose sur les paroles de Jésus lui-même, qui sont rapportées en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans ce texte, il y a trois actions. Allez, baptisez et enseignez. Et ce matin, il m'a été demandé de partager sur le sujet du baptême. Alors, soyez décontractés. Alors, peut-être que vous qui êtes baptisés, vous dites, vous allez vous tasser un petit peu sur votre chaise en disant, oh ben, moi, je ne suis pas concerné. C'est déjà fait. Quoique, il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire, de se rappeler cet événement que nous avons choisi de vivre. Alors, sur le sujet du baptême, parce que je considère aussi personnellement que c'est à la fois intéressant et important parce que c'est tout simplement une ordonnance de l'Église de Jésus-Christ. Et tout au long du Nouveau Testament, il nous est souvent fait référence au baptême. Il y a également des préfigurations dans l'Ancien Testament, comme, par exemple comme le passage de la mer Rouge, mais ce matin, je vais juste me limiter au Nouveau Testament. C'est un sujet très vaste. Et je vais essayer de partager les enseignements principaux. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire baptiser? En grec, ça veut dire plonger, immerger, mais rassurez-vous, hein, on en ressort. Je précise que j'ai utilisé aussi plusieurs traductions, dont principalement la Bible Parole vivante. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Nouveau Testament? D'abord, dans les évangiles. Jésus lui-même est baptisé à l'âge adulte. Il avait environ 30 ans. D'ailleurs, nous lisons en Marc 1, verset 9. Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean, qui était son cousin, dans le Jourdain. Et puis ensuite, nous voyons que Jésus lui-même baptise en Jean 3, 22-23. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean-Baptiste, lui, de son côté, baptisait près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et que les gens venaient constamment à lui pour être baptisés. Ensuite, Jésus lui-même ordonne aussi de baptiser. Marc 16, versets 15 à 16. Allez dans le monde entier, annoncez l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis, peu de temps avant son ascension, Jésus donne ce commandement à ses disciples: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, plus tard, un petit peu plus tard, dans le livre des Actes, c'est l'Église primitive qui baptise. Je ne citerai là que quelques exemples parce qu'ils sont nombreux. Par exemple, le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 37 à 41, c'est Pierre qui parle, qui prend la parole, et s'adressant à ses auditeurs, voici ce qu'il leur dit. « Vous avez reçu ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés. » Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Mais frère, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ?» Alors Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. » Et puis, un disciple aussi, nous voyons l'exemple d'un disciple, Philippe pour Samarie, acte 8, versets 12 à 17. « Quand ils eurent accepté avec foi le message que Philippe leur annonçait au sujet du règne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. » Puis je vous donne aussi d'autres versets que je ne lirai pas parce que le temps manquerait. Nous avons les disciples à Éphèse. Acte 19, versets 1 à 7. Nous avons Corneille et ses amis, acte 10. Le geôlier et sa famille, acte 16. Et nous voyons que depuis le début de l'Église, tout au long des siècles, les chrétiens n'ont pas tous la même approche au sujet du baptême. Mais ce matin, je me limiterai à ce que dit la Bible. Arrêtons-nous maintenant sur le sens que Dieu donne au baptême. Comprendre ce que Dieu a voulu nous laisser comme vérité à vivre. D'abord, c'est la symbolique du pardon des péchés ou de la circoncision spirituelle. Le baptême est un acte qui parle d'une relation étroite entre Dieu et l'être humain. Demander le baptême ne peut être qu'en cohérence avec la foi en Christ et un comportement en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Acte 2, verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous ou changez de comportement, et selon les traductions, et que chacun de vous se fasse baptiser. » Puis, en Matthieu chapitre 3, 7 à 11, nous lisons que Jean-Baptiste, voyant venir des pharisiens et des sadducéens demander le baptême, leur dit « Race de vipères, montrez par vos actes que vous avez changé de vie. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. » En fait, la réalité intérieure et le comportement sont déterminants, sinon le baptême n'a pas de sens et ne signifie rien de valable. Maintenant, bon, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais peut-être que certains se disent, ouais, mais lui, là, qui est en train de parler du baptême, qu'est-ce qu'il en est pour lui? Bon, alors je vais vous dire, ça fait maintenant 56 ans que j'ai été baptisé dans une rivière. C'était au mois d'août 1965 et j'avais 16 ans. Bon, pour ceux qui sont rapides en calcul mental, peuvent se dire, tiens, il a tel âge. Lorsque je suis venu au monde, quelques semaines plus tard, bien sûr, mes parents m'ont baptisé selon la religion traditionnelle. Quel souvenir j'avais de ce jour? Aucun. Et puis, c'était la décision de mes parents et non mon choix. Mais quand j'ai été instruit dans la foi selon la Bible, j'ai compris que ces quelques gouttes d'eau reçues sur le front n'avaient pas de valeur au sens biblique du baptême. Et après avoir fait la démarche de donner ma vie au Seigneur, j'ai compris que l'étape suivante était de m'engager dans l'obéissance à la parole et en me faisant baptiser, aussi pour témoigner que Jésus était devenu mon Sauveur et Seigneur. Et ce rappel me permet d'être affermi dans cette certitude, parce que je m'étais engagé avec Dieu et que je l'avais manifesté à travers le baptême. Je savais, comme l'affirme l'apôtre Paul en Romains 8, versets 38 à 39, oui, j'en ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, qui nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette certitude, ne vient pas du fait que je serai ou que nous serions meilleurs, plus parfaits que les autres. Non, pas du tout. Mais parce que nous croyons la parole de Dieu, et c'est une promesse que Dieu a faite à celles et ceux qui se confient en lui. Et toujours Paul, en Romains 6, versets 3 à 4, nous dit « Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait un acte de mort au péché ?» Oui, bien, ne savez-vous pas aussi que nous tous qui ont été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort, et par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Maintenant, le problème, en parlant du baptême, c'est qu'il est quelquefois assimilé à une œuvre humaine. On se fait baptiser pour obtenir le salut. On accomplit une œuvre qui permettrait de mériter la purification des péchés. Eh bien non, mille fois non. Le baptême dans la Bible n'est pas une œuvre faite en vue d'obtenir la vie éternelle avec Dieu, mais la conséquence de la réalisation de ce que Dieu a donné et a déjà accompli dans la vie. Mais le plus difficile est d'abandonner nos propres efforts, c'est-à-dire mon orgueil. Dans cette symbolique du pardon des péchés, nous pouvons y voir la symbolique aussi de la circoncision spirituelle. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que la circoncision a été instituée par Dieu. Par exemple, en Genèse 17, versets 9 à 14, Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération, et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. » Ce commandement est rappelé dans le Lévitique également. Et pour le peuple hébreu, la circoncision est le signe de l'alliance dans la chair. Elle marque de manière symbolique, mais concrète, l'engagement d'Abraham à maintenir lui et ses descendants une relation existentielle avec Dieu et à assurer la pérennité de l'alliance. Mais Paul, en Colossiens 2, versets 12, 11, nous dit « Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle des sacrifices qu'on faisait sous l'Ancienne Alliance pour recevoir le pardon des péchés. Et là, il y en a eu des cadavres d'animaux et des hectolitres de sang de versets. Et au chapitre 9, verset 9 de l'Épître aux Hébreux, ces offrandes et ces sacrifices parlent des sacrifices qu'on faisait sous l'Ancienne Alliance pour recevoir le pardon des péchés. Mais ces offrandes et ces sacrifices qu'on présente à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Puis il ajoute, nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle, parce que la vraie dimension est celle de la grandeur de l'œuvre de Christ à la croix. Et cette œuvre que Christ a accomplie à la croix est suffisante pour le péché, pour le pardon de mes péchés. Il n'y a rien à ajouter et rien à soustraire. Donc, de tout temps, Dieu a voulu cette relation avec sa créature que nous sommes. Dieu, de tout temps, a eu ne cesse que de nous chercher, de te chercher, de me chercher. Et cela peut paraître étrange de parler de rencontre avec un Dieu que l'on ne voit pas. Ça peut ressembler à de la fiction ou du virtuel. En fait, c'est comme le vent. Le vent, tenez, prenez l'exemple du vent. On ne le voit pas. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas le saisir, le toucher. Nous voyons seulement ses effets lorsque nous voyons les feuilles des arbres remuer. C'est là que nous nous disons, tiens, le vent se lève. C'est là qu'est la différence principale entre la compréhension d'un baptême qui pourrait sauver parce qu'on l'accomplit, et puis l'acceptation de l'œuvre de Dieu qui pardonne et donne la vie éternelle gratuitement. Donc le baptême d'eau reflète cette réalité intérieure comme un signe de reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a fait. Et nous connaissons Dieu à travers ses interventions, aujourd'hui encore. Elles sont souvent la réponse à notre prière. Et lorsque Dieu nous répond, eh bien, nous le connaissons de plus en plus. Et cette rencontre, par exemple, elle est aussi représentée par l'image du repas. Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Là, c'est une merveilleuse promesse qui nous attend, frères et sœurs. Cette rencontre avec Dieu produit une joie paisible, paisible et profonde, à condition de faire une démarche de foi, ce qui veut dire ouvrir sa vie à la présence de Dieu. Donc ce symbole de mort parle donc de la mort à soi-même. Paul écrit en Éphésiens 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, non, non. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies, non. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Et puis aussi, il y a la symbolique de la nouvelle naissance. Titre 3, verset 5, « Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. » Et le baptême est un signe par lequel on manifeste le désir libre et volontaire de vivre pour Dieu, de le mettre en premier dans la vie et de vivre pour lui. Ainsi, être plongé dans l'eau parle d'un recentrage, d'un changement de mode de vie, de réorientation et surtout sur ce qui peut nous faire découvrir la source de la vie qui est Jésus lui-même. Ainsi, le nouveau disciple est totalement recouvert par l'eau pendant le baptême, et c'est bien là le sens du baptême, concrétiser de manière visible un passage par la mort et la résurrection. Celui qui se fait baptiser est en communion avec la mort de Christ. Quand il sort de l'eau, comme sortant de la mort, il est alors en communion avec la résurrection de Jésus-Christ. Et le nouveau disciple montre ainsi, par son baptême, qu'il veut faire mourir son ancienne nature pour vivre une nouvelle vie en Christ. Le baptême est une représentation visible de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Rome, leur dit au chapitre 6, 3 à 11, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » Gloire à Dieu pour cela. Alors, ensuite, on avance. Comment ce baptême nous engage-t-il ? le sens précis du baptême chrétien, comment nous engage-t-il aujourd'hui? D'abord, en premier, il nous engage vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela. « Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. » C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager vers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un témoignage, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu devant la communauté chrétienne de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et le croyant répond précisément parce que Dieu a eu, c'est Dieu qui a eu l'initiative. Il a touché son cœur par son esprit, l'a régénéré, c'est-à-dire a changé son cœur, l'a fait naître. De nouveau. Le baptême est par conséquent un moyen d'exprimer la reconnaissance. C'est un acte aussi de confession de la foi et d'engagement à une vie de disciple conséquente. Ensuite, il nous engage aussi envers nos frères et sœurs dans la foi, parce qu'il nous inclut dans le corps de Christ qu'est l'Église avec un grand E. C'est la confession de notre foi devant Dieu, bien sûr, mais aussi devant les hommes. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12, verset 13, « Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Et il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit, pour former un seul corps. Que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Ainsi, nous rejoignons la grande famille des enfants de Dieu appelés à vivre pour l'éternité ensemble, en présence de Jésus. Nous sommes appelés à vivre ensemble pour l'éternité. Ça vous... Ouais ? Il y en a au moins un qui suit. Alors, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux déjà s'entendre déjà ici-bas. Parce que de toute façon, là-haut, on n'aura pas le choix. Bon. Mais je pense qu'on s'entend déjà très bien. Donc, efforcez-vous, donc, rappelle Paul à l'église d'Éphèse. Il leur dit, écoutez, efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. J'aime ça. Tout est dit. J'en arrive à la conclusion. Et peut-être qu'il y a une question qui reste en suspens, là, au-dessus de nous. Mais enfin, qui peut-être baptisé finalement. Après tout ce que l'on vient d'entendre, cette question est normale. Mais enfin, qui ? Bon, c'est simple. Les personnes en mesure de confesser personnellement leur foi. Parce que il est à relever dans l'Évangile, qu'on amenait les enfants à Jésus pour qu'il les bénisse, oui. Mais les Évangiles nous rapportent des baptêmes de personnes adultes ayant la capacité de réaliser ce à quoi ils s'engageaient après en avoir compris la signification. Et à partir du moment où l'on a compris l'œuvre de Jésus sur la croix, pour le pardon de nos péchés et que nous voulons nous engager à le suivre avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, rien ne nous empêche d'être baptisés. Bon, peut-être pas dans la minute qui suit, non. Mais je crois qu'ici, ce matin, il y a au moins une personne, que dis-je, voire plusieurs personnes que Dieu invite à se tourner vers lui dans la confiance, à lui demander pardon pour vos fautes. Et puis vous recevez cette vie intérieure qui parle de réconciliation avec Dieu et la vie éternelle avec lui. Peut-être y a-t-il quelque chose qui résonne dans votre cœur. Peut-être que depuis un certain temps, vous vous posez cette question. Pourquoi pas, oui, le baptême, j'y pense, mais bon, on peut réfléchir. Donc, je veux terminer en vous invitant à prendre un moment de recueillement, de fermer les yeux. Et si ce que vous avez entendu sur le baptême vous interpelle et vous vous dites « Oui, finalement, je veux m'engager à me faire baptiser. » Alors, prenons un moment de recueillement. Je vous invite à peut-être baisser la tête, fermer les yeux et faire un examen à l'intérieur de vous. Si pendant ce temps de recueillement, vous dites « oui, je voudrais me faire baptiser », est-ce que je peux vous demander, de là où vous êtes, de lever votre main ? Oui, merci Elsa. Merci, je t'ai levé. Rassurez-vous, je ne vais pas insister. Peut-être que vous êtes timide. Il y a encore quelqu'un qui veut se faire baptiser, qui veut prendre cette décision. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui ont levé la main. Tu connais peut-être celles aussi qui ont hésité, par timidité ou pour toute autre raison. Seigneur, bénis chacun. Seigneur, lorsque nous obéissons à ta parole, à ton appel, il n'y a aucun regret à vivre, à avoir. Il nous remplit de ta paix. Il nous donne cette assurance de la vie éternelle. Nous sommes devenus tes enfants. Et nous entrons dans cette famille, qui est la famille de Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Ce que nous avons, c'est à recevoir ta grâce qui est un don. Nous n'avons rien fait, rien mérité pour cela. Mais tout est par grâce. Oui Seigneur, merci pour ton œuvre et pour ton amour, parce que tu nous aimes. Amen. Amen. Vous qui avez lavé la main, je vous inviterai à vous rapprocher du pasteur, de Eric, pour connaître la marche à suivre. Que le Seigneur vous bénisse.